Quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, me reconnaissez-vous?
De loin, de loin.
Oui, ben moi je vous reconnais. Hélène Denis de retour en onde, de retour à Canal M de Vues et Voix, est très contente de vous retrouver. Bonjour Mathieu.
Bonjour Dame Denis.
Mathieu Téchier qui a eu un anniversaire, son anniversaire de naissance pendant mes vacances, pendant ses vacances. Ça s'est bien passé, avez-vous fêté ça en grand Mathieu?
Toujours.
Toujours?
Oui, toujours.
Comment vous fêtez ça?
Je me réveille le matin, je suis heureux d'être en vie.
Vous êtes payé quelques paires de chaussettes?
Oui, je sais pas, j'ai eu une petite bulle au cerveau. Là.
Oui,
voilà.
J'ai remarqué ça ce matin, il y a des chaussettes Mondrian. Vous connaissez le pain de Mondrian? Wow! Alors Mathieu, je suis contente de vous retrouver. Vous avez repris le collier récemment, vous. Les vacances ont été bonnes pour vous?
Oui.
Avec vous?
Oui, ben oui, avec moi-même, oui, oui, oui.
Et moi
et
pendant... Ben oui, 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 les vacances ont été bonnes. J'ai eu quand même la chance de profiter d'un lac, le lac Cardinal, pour ne pas le nommer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde là.
Ouais.
Un lac clair, on peut boire l'eau, presque en tout cas. Je me suis baignée dans ce lac-là, là, c'était un
délice.
Un bonheur, oui, un délice. Je voulais dire délice, mais les gens vont dire « elle a bu de l'eau finalement du lac », mais non. Et je me suis promenée en ponton. Des vacances d'été agréables. Et, mais pendant mes vacances, et vous aussi Mathieu, puis toute l'équipe de Canal M, là, on a appris une très triste nouvelle, c'est le décès, je ne réalise pas encore, le décès de notre collègue Fulgence. Le toujours souriant Fulgence Blas, on n'oubliera pas sa présence et son rire.
Et son rire, ouais.
Son rire, son sourire. Et à chaque fois qu'il arrivait, Fulgence, à la station, il allait dans les corridors pour dire bonjour à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est pas donné à tout le monde d'être comme ça, avoir un cœur, un beau cœur, un grand cœur. Et c'était donc une nouvelle triste et inattendue qui nous a tous choqués. Et j'offre mes condoléances à tous ses proches et à vous, les auditeurs et auditrices qui l'avaient suivi. Afrique Caraïbes, ça a été sa dernière émission. Hein. Lui, Fulgence, qui a eu quand même une belle carrière radiophonique. Un petit peu de joie maintenant. J'ai écouté de la joie, mais aussi de l'émotion parce que j'ai écouté mon collègue Denis-Martin Chabot qui a eu la délicatesse de conclure son émission avec « Je te réchaufferai » de Charles Aznavour, chanson dans laquelle il est question d'une Hélène.
Une ou c'est pas vous?
Ça peut être moi, oui.
Ben oui,
Oui, oui. Surtout quand c'est Charles Aznavour, là, moi, je craque complètement. Et bien, Denis Martin, ben merci. Merci de ta gentillesse. Il parlait de moi comme une collègue, une amie. C'est réciproque. On est des complices. On est devenus des complices au fil du temps. Et je salue Denis Martin pour sa rigueur et aussi pour le plaisir qu'il a d'être en onde. Il a été avec vous durant tout le mois d'août et c'est une immense chance donc de l'avoir dans l'équipe de Canal M. C'est le 1er septembre aujourd'hui et on va souligner ça avec des chansons. Et qu'est-ce qu'on aura au menu? Bien, devant moi, il est tout tranquille, mais vous allez prendre votre place à un moment donné,
ça,
André. André Lacombe qui est là. Bonjour, André.
Bonjour, Hélène.
Vous avez passé un bel été, vous?
Un très bel été,
oui.
Absolument.
Vous avez un beau petit teint basané,
petit
même
âne.
Si on nous dit de ne pas nous faire bronzer, mais à un moment donné... 15 minutes de soleil protégé, ça fait du bien.
Il faut bien mourir de quelque chose.
Non, dites pas ça. Moi, cette phrase-là, je la comprends pas. Alors, André, aujourd'hui, l'histoire et l'origine de quelques mots, dont singer.
Oui, singer, effectivement, mais je ne volerai pas le punch tout de suite.
Mais non.
Alors, on a comme ça un florilège de mots autour de la nourriture, des vêtements et d'autres éléments, d'autres choses.
On va vous entendre d'ici 10 heures. On aura aussi la chronique économie avec Michel Poitvin et aussi une entrevue avec Alain Quinn, qui est directeur général d'Humanité Inclusion Canada, que vous connaissez peut-être, c'est une organisation non gouvernementale, donc une ONG qui vient en aide aux personnes en situation de handicap et aussi à celles qui sont touchées par la pauvreté, les conflits à travers le monde, les catastrophes également. Nous aurons Anne-Marie Aubin, très contente de la retrouver à sa chronique livre. Anne-Marie qui va nous parler d'un livre qui traite du deuil, intitulé « Et le chant reste beau ».
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid. Au blanc soleil, maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
Ah, Gilbert Bécaud et sa chanson, c'est en septembre.
Incontournable. En ce 1er septembre 2026, déjà le mois de septembre. À la une de la presse plus, un jeu d'enfant se procurer toute une gamme de produits du cannabis dans des magasins de la communauté autochtone et chose facile, même si on n'a pas l'âge requis, a pu constater la presse, jujube, gâteau, slush, même quand on n'a pas encore l'âge légal, il est facile de se procurer divers produits de cannabis à Cana Setaki. Une jeune femme de 20 ans, envoyée par la presse, a facilement acheté du cannabis à Cana Setaki, notamment dans ce commerce Mary Jane's. Toujours à la une de la presse plus, élection partielle fédérale, triplée libérale, les troupes de Mark Carney ravissent Chicoutimi le fjord. Joël Denis Bellavance signe une chronique à ce sujet, une élection trois verdicts. Et puis la chronique d'Hugo Dumas est présentée à la une de la presse plus. Radio-Canada, il parle de la rentrée télé de Radio-Canada, notamment de L'œil du cyclone, cette série tellement populaire qui va prendre fin après cette saison. Et stat rajeunit, point d'exclamation. Et oui, il y a de nouveaux comédiens du côté de Stat, les trois nouveaux médecins résidents campés par Léa Roy, Maxime Gibault et Audrey Roger vont bousculer les habitudes à l'hôpital Saint-Vincent et abaisseront la moyenne d'âge des employés. Et il nous apprend, je ne savais pas en tout cas, que le personnage de préposé campé par Stéphane Rousseau, Éric Perron, qui a gagné 17 millions à la loterie, c'était dans Stat, ne reviendra pas dans le feuilleton médical signé par Marie-André Labbé. Stéphane Rousseau préfère se concentrer sur sa carrière d'humoriste. C'est bien dommage parce que c'est un personnage extrêmement attachant, mais il y en aura d'autres auxquels on s'attachera. Stat qui commence le 15 septembre, si je ne m'abuse. C'est un mardi. N'est-ce pas, Mathieu? Le 15, c'est un mardi. Sauvez-moi! À la une du Journal de Montréal, le cuivre attire les voleurs. Record de bornes électriques vandalisées. Les voleurs de câbles ont frappé fort cet été partout au Québec avec au moins 56 bornes de recharge pour voitures électriques vandalisées. Je suis venue pour me recharger avec mon auto électrique et c'était impossible de le faire. C'est assez décevant parce que les voleurs visent les bornes de recharge rapide et elles sont plus rares. On est plusieurs à dépendre du réseau public, soupire Tommy Langlois. Le journal l'a rencontré hier derrière le marché Maisonneuve à Montréal, où au moins trois stations de recharge ont été saccagées. Une dizaine de câbles ont été grossièrement coupés malgré la présence de caméras. Hydro-Québec, qui exploite le circuit électrique, confirme avoir recensé un nombre record de 68 vols de câbles électriques dans la province depuis le début de l'année. C'est près de trois fois plus qu'à pareille date en 2025. La Société d'État affirme que la région du Grand Montréal était autrefois la plus touchée par ce type de larcin. Toutefois, les événements recensés démontrent une propagation graduelle du phénomène à l'échelle de la province, notamment dans la région de la Capitale-Nationale. Alors, si vous êtes témoin d'un vol, nous vous invitons à appeler directement la police pour signaler le méfait, demande M. Batty, Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec. L'effet des tarifs sur la CAQ s'essouffle, le sondage léger, le PQ reste en avance. Tous les détails en pages 4 et 5, intention de vote au provincial. Même si votre choix n'est pas encore fait, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à voter? 29 % pour le Parti québécois, 24 % pour la Coalition Avenir Québec et 22 % pour le Parti libéral du Québec, 15 % pour le Parti conservateur du Québec et 10 % pour Québec solidaire. Et puis je termine avec la une du Devoir, les partis misent sur l'efficacité de l'État. Les sujets de la place du privé en santé, de la taille de l'État et des mises en chantier se sont imposés au cinquième jour de la campagne électorale. Dans l'espoir de rendre l'État plus efficace, les caquistes se sont engagés lundi à accentuer la place du privé en santé, tandis que le Parti québécois a promis un grand ménage dans la bureaucratie et le Parti libéral du Québec la création de délais maximaux pour accélérer la mise en chantier de logements.
C'était la chanson Watershed of Pale de Agbo.
Oui, une version spéciale. Hein? On se rappelait les années 60, là, c'était un slow, un plain, A Whiter Shade of Pale par Procol Harum. Ici, une reprise que j'ai redécouverte sur la bande originale du film Gazon maudit. Là, ça nous ramène loin, ça. Et il y a un petit but là, qui nous met dans l'ambiance de septembre. Bon, oui. Alors, parlant de mots, j'ai dit beat. C'est un anglicisme.
Petit rythme.
Oui, petit rythme. Mais on le dit, beat quand même.
Hein? Oui.
Ouais. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler ni de beat, ni de rythme, mais de mots sur les thèmes de la nourriture et des vêtements, oui. André.
Et tantôt, vous avez introduit en parlant de singe.
Oui.
Alors je commence par singe.
Est-ce que ça a rapport avec la machine à coudre, Seigneur?
Non, pas du tout. Et ça n'a pas rapport aux singeries non plus.
Non?
Non. Mais on parle du fait de saupoudrer de la farine sur une viande avant de la faire revenir puis d'ajouter un liquide.
Oui, j'ai déjà
singer
entendu,
une viande.
C'est vrai.
Ben oui, ben oui. Au 18e siècle, on appelait familièrement jus de singe. Oui, jus de singe.
Prendrais-tu un bon petit verre de jus de singe?
Je vais vous dire pourquoi.
OK.
Un caramel liquide qui était utilisé par les cuisiniers pour colorer et imiter la belle couleur brune des sauces, sans avoir à faire mijoter longuement la viande.
Ah.
Une drôle de pratique, hein?
Oui, oui.
Et le mot-clé ici, c'est « imiter ». Parce que justement, ça voulait imiter une viande mijotée, mais ça n'en était pas. Donc, « imiter », c'est la référence au singe.
Parce que le singe imite.
D'où le jus de singe, exactement. Heureusement que la pratique a évolué, là. on fait plus ça, mettre un colorant pour faire croire que... Mais le terme est resté pour désigner la pratique actuelle de saupoudrer de farine, etc.
Malgré que vous dites ça, qu'il n'y a plus de colorant, il n'y a plus de colorant pour les sauces utilisées.
Ben, si vous achetez des sauces en enveloppe, oui.
Oui,
mais
même si on fait une sauce maison, on peut rajouter, je ne dirais pas la marque, mais quelque chose pour donner une coloration peut-être plus belle à l'œil là, et appétissante. Oui, mais c'est ça, ce n'est pas nécessairement du jus de singe. Autre mot, André.
Pigrassé. Est-ce qu'on disait ça chez vous?
J'ai jamais entendu ce mot-là. Mathieu connaît.
Oui, ma grand-mère disait ça, pigrasser.
Ah oui? Oui, oui. Arrête de pigrasser? Oui.
Arrête de pigrasser dans ton assiette, là. Ça veut dire jouer avec sa nourriture sans vraiment manger.
Picosser.
Hein, dans son pâté chinois, là, on faisait des routes, on faisait.
Des cœurs avec le ketchup.
Voilà. C'est un verbe qui vient de l'ancienne langue d'O'il. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une langue régionale qui était pratiquée notamment dans le Perche, région de la France. Et le mot « pigras », ça désignait la vase ou la boue.
Ah.
Donc, à l'origine, « pigrasser », c'était patauger dans la vase ou la boue. Et on l'a transposé à la nourriture. Vous savez, un ragoût extrêmement cuit, là, ça peut avoir l'air
de boue.
Boue de
oui,
vase.
Oui.
J'imagine que c'est là qu'on a fait la transposition.
« Pigrasser », bien, j'en tiens ça, c'est bien.
Ouais. Et tant qu'à parler de bouffe, on va parler de « bedaine » et de « bedon ». Ça va bien ensemble.
Mm-hmm.
L'origine du mot « bedaine », ça remonte au 14e siècle. Ça nous vient de l'ancien français « boudaine », pour parler d'un gros ventre. Et « bedon », c'était d'abord un nom pour désigner un gros tambour de forme ronde, forme un peu renflée là, sur le dessus.
Mm-hmm.
Et par comparaison, ben, on a d'abord appelé « bedon » un homme gros et ventru, avant de limiter la comparaison au seul ventre du monsieur en question.
Puis est-ce que ça a un rapport avec l'expression « ou bedon » ?
Ah, ça, c'est autre chose.
Ou Monsieur Bedondaine.
Monsieur Bedondaine, ça, par
dans
contre,
la Révoltaine.
Il était assez grassouillet, Monsieur
Bedondaine.
Oui,
il avait un super ventre. Il était ventru.
Oui. Alors, fait intéressant, les deux mots tirent leur origine des préfixes « bod » et « boud » qui servent à désigner ce qui est enflé, rond, boursouflé, comme dans les mots « boudin ». Boudé, à l'origine, boudé, ça voulait dire faire la moue en gonflant les joues ou les lèvres.
Ce que je suis en train de faire, là.
Ce que vous êtes en train de faire, mais on est à la radio. Et baudruche, qui s'écrivait B-O-D à l'origine, mais B-A-U-D maintenant, qui est la pellicule gonflable en caoutchouc aujourd'hui, là, utilisée notamment pour les ballons.
Ah! Ouais. On poursuit maintenant avec le mot « emmitouflé ».
Emmitouflé, j'aime bien ce mot-là.
Oui.
Ça nous vient du 16e siècle, emmitouflé, formé du préfixe « m-e-m » et du nom « mitoufle ». C'est quoi ça, « mitoufle » ? C'est un ancien synonyme de « mitaine » ou de « moufle ». Le premier sens signifie donc « qui porte de grosses mitaines », ce que ça voulait dire à l'origine, mais on a élargi ensuite la définition pour décrire le fait d'être littéralement empaqueté, on peut dire, dans des vêtements chauds, épais ou des fourrures pour se protéger du froid.
Mais je préfère en mitoufler à empaqueté.
Oui, j'ai mis empaqueté entre guillemets.
Ouais. Dépenaillé.
On disait en haillons à l'origine, pour décrire le fait d'être habillé de vêtements usés jusqu'à la corde ou en pièces. Dépenaillé, ça c'est apparu plus tard, à la toute fin du 18e siècle. Ça vient du mot penaille. C'était quoi ça, les penailles? Ouais. Ça désignait de façon péjorative l'ensemble des vêtements d'une personne. À des vieux vêtements, souvent déchirés, usés à la corde. Et l'ajout du préfixe « dé », ça a permis d'exprimer l'idée de désordre ou de destruction ou de l'amplifier. Donc, dépenaillé, ça qualifie une personne vêtue de haillons ou dont la tenue est très négligée et en désordre.
Ce qui n'est pas votre cas.
Merci.
Vous y allez maintenant avec des mots en tout genre.
Oui. Cabosser. Hein, pour faire des bosses ou des creux pour déformer un objet. La première trace de cabosser, ça remonte au 14e siècle. On disait cabossier, C-I-E-R. Ça voulait dire tout simplement former des bosses. Et la forme cabossée, la forme actuelle, elle apparaît au 19e pour exprimer le fait de déformer un objet par des coups. Et le verbe cabosser, ça a contribué à la naissance des mots cabosse, qui désigne le fruit du cacaoyer. Hein, vous savez, la grosse coque bosselé du, du cacaoyer qui contient les graines savoureuses.
C'est cabosse.
Cabosse et caboche pour la tête.
Ah, hein, avoir une tête de... Non, comment on dit
la
ça?
La caboche, simplement, ouais. Pour dire la tête. C'est un synonyme
c'est
de tête.
C'est drôle quand même. Hein?
La caboche.
Oui,
c'est
il y a une
grosse
caboche.
Bosse, la tête, dans le fond. C'est ce que ça veut dire.
Et continuez.
Un mot... Merci. Un mot issu de la chevalerie maintenant, adoubé. Qui provient d'une langue très lointaine, l'ancien bas-francique. On disait duban ou dubben, je ne sais pas comment le prononcer, D-U-B-B-A-N, ça voulait dire frapper. C'était quoi ça, l'ancien bas-francique en passant? C'était la langue parlée par les Francs. À partir du 5e siècle, les Francs habitaient le nord de la France, le territoire actuel des Pays-Bas et la Flandre. Et en français, adouber, ça apparaît au 12e siècle pour désigner l'action d'armée et de nommer, au sens de recevoir, là, protocolairement parlant, un nouveau chevalier. Parce que son parrain lui donnait un coup rituel. Hein, c'est l'idée du coup qu'on appelait la paumée sur la nuque ou sur l'épaule. Aujourd'hui, adouber, c'est, le terme est resté au sens figuré, soit pour dire qu'on valide, qu'on soutient ou qu'on consacre une personne ou un projet par les pairs, en fait. Exemple, un artiste adoubé par la critique. Ou bien aux échecs ou aux dames, toucher une pièce uniquement pour la centrer ou la remettre bien en place sur sa case sans la jouer.
Adoubé.
Adoubé. Hélène, êtes-vous parfois turlupinée par quelque chose?
Ah oui, très souvent.
Très souvent, moi aussi. Le verbe turlupiner.
C'est humain, hein?
Humain, bien oui. Ça vient du théâtre, ça, turlupiner, et d'un de ses personnages, Turlupin.
Turlupin, ah, il y avait un personnage qui s'appelait Turlupin.
C'était le nom de scène d'un célèbre acteur comique français du 17e siècle qui s'appelait Henri le Grand. Et Turlupin était connu pour ses farces, ses grimaces, ses jeux de mots amusants, souvent grossiers, coquins, grossiers. À l'origine, donc, le verbe est apparu pour signifier faire des plaisanteries ou se moquer de quelqu'un, turlupiner. Au fil du temps, le sens relié aux plaisanteries a disparu. Puis le verbe s'est concentré seulement sur l'idée d'agacer ou d'embêter quelqu'un, de tracasser son esprit. Mais aujourd'hui, on l'emploie plus par rapport à nous-mêmes. Donc, quelque chose me turlupine, oui, me tracasse, oui. Me tourne en rond.
J'ai un turlupin dans la caboche.
C'est ça, exactement.
Je connaissais, bon, on connaît Scapin, les fourberies de Scapin,
les fourberies.
Mais turlupin,
ouais.
C'était quelque chose d'inconnu pour moi.
Ouais.
Alors, passez à tabac.
Oui. C'est pas très joli. Hein? Frapper quelqu'un avec violence en lui infligeant des coups répétés, passer à tabac. À la fin du Moyen Âge, tabasseur ou tabastar voulait dire molester, donc brutaliser quelqu'un. Puis au 17e, on dit donner du tabac pour exprimer le fait de donner des coups. L'expression « passer à tabac » va apparaître seulement...
Donner du tabac, c'est pas passer une cigarette.
Non, peut-être que c'était ça aussi, mais il y avait un autre sens. Passer à tabac, ça apparaît seulement au 19e siècle, suivi par le verbe tabasser au début du 20e. Mais ce qui est intriguant dans tout ça, c'est l'emploi du mot tabac avec un C dans l'expression.
On ne prononce pas hein, tabac. On ne dit pas tabac.
Exact. On dit tabac. Mais jusqu'au 19e, on disait tabac avec un S.
Ah oui.
Hein? Souvenez-vous, je vous ai dit au Moyen-Âge tabassard, tabastard. Donc c'était tabac, c'est T-A-B-A-S. Et c'est au 19e que tabac s'est confondu avec tabac, avec le C, parce que la prononciation est identique. Puis tabac avec le C est devenu la norme. Mais il n'y a pas juste l'expression « passer à tabac hein, » où ce changement s'est produit. Au théâtre, à partir du 19e, « faire un tabac
ah », oui,
l'expression
vrai.
Apparaît pour dire qu'une pièce connaît du succès. Ça, c'est en référence aux applaudissements fournis et bruyants, un peu comme si on battait quelqu'un, on bat des mains, en fait. Et toujours au 19e siècle, le vocabulaire
en
de la marine...
En battre des mains, battre quelqu'un,
oui, c'est... Oui, ben oui, on se comprend que c'est... On étire le sens des choses, mais la langue évolue comme ça, hein. Et toujours au 19e, la marine s'empare du mot tabac pour l'expression « coup de tabac » pour désigner une tempête maritime violente et soudaine.
Et j'ai du bon tabac dans ma tabatière?
Ça, c'est le vrai tabac, ça.
Bien, vous avez fait un tabac encore,
merci,
une fois ce matin.
Merci, Hélène.
Merci, André Lacombe, et on va se retrouver dans deux semaines?
Eh oui.
Puis, ça va être avec
le
même
dans
plaisir.
Dans deux semaines, non. Désolé, je pars.
Ah, vous partez
je
dans
pars
deux semaines.
Je pars le 15, justement.
Et vous reviendrez
en
quand
octobre.
Même. Oui, avec, j'imagine, plein d'autres images.
De beaux récits
et
de voyage.
Beaux récits de voyage, ça, c'est sûr. Bien, André, on se quitte pour mieux se retrouver. Passez du
exactement.
Bon temps, puis où vous soyez, soyez heureux.
Merci,
salut.
Hélène.
La chronique économie s'en vient tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Poitevin qui est au bout du fil. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, très heureuse de vous retrouver. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et bien sûr qu'on va parler des cadres financiers des différents partis lorsqu'ils seront tous disponibles. Mais en attendant, il y a d'autres nouvelles économiques, dont une nouvelle annonce de taux d'intérêt par la Banque du Canada demain.
Eh oui, la première nouvelle depuis la rentrée ou la fin de l'été. On rappelle, ça fait à peu près un an que la Banque du Canada maintient son taux d'intérêt à 2,25 %, le taux directeur. Puis on peut rappeler que le mandat de la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation entre 1 et 3 %. Puis l'inflation, c'est quoi? C'est le signe que l'économie surchauffe ou qu'il y a une hausse du prix de l'énergie, souvent qui filtre dans tous les secteurs économiques là, au Canada. En juillet, les derniers chiffres d'inflation qu'on a pour le mois de juillet, l'inflation était à 3 %, donc juste à la limite supérieure de la fourchette, alors qu'en juin, on est à 2,8 %. Est-ce que l'inflation s'accélère? Ça va être à suivre. Il y a beaucoup de signaux contradictoires. Une bonne nouvelle, là, malgré ce chiffre de 3 %, c'est que si on exclut l'énergie, l'inflation est à 2,2 %, qui est relativement stable depuis les derniers mois.
Mais pourquoi l'inflation est élevée alors que les nouvelles économiques semblent assez décourageantes, toujours
ben
décourageantes?
Oui, on a l'impression qu'à chaque chronique, on dit « bon, c'est des mauvaises nouvelles encore et encore ». Ce sont les suspects, les mêmes suspects là, d'une fois à l'autre. Il y a toujours les tarifs et la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'est accélérée dans les deux dernières semaines. Donc, la guerre commerciale, l'effet sur l'économie, bien, on s'attend à ce que ça soit un ralentissement de l'économie, là, les tarifs, qu'on ne puisse pas vendre autant qu'on voudrait aux États-Unis ou à coûts plus élevés. Ça a tendance à limiter l'inflation. Par contre, le tarif lui-même, bien, ça augmente le prix que les Canadiens paient pour les biens américains. Puis ça a tendance à stimuler l'inflation. Donc, on voit déjà, là, il y a des forces opposées qui jouent. Puis on rajoute à ça la guerre en Iran. La guerre en Iran qui est repartie de plus belle, là, si on en croit les journaux depuis hier ou avant-hier. Puis ça crée des pressions à la hausse sur l'énergie parce que le fameux détroit d'Ormuz est bloqué. Le pétrole ne sort pas du Moyen-Orient. Ça augmente le prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Puis ça a tendance à générer de l'inflation parce que le prix de l'énergie se retrouve dans toutes les composantes de la production à peu près là, à l'échelle mondiale. Mais malgré tout ça, non, malgré ces mauvaises nouvelles-là, l'économie semble bien se porter, là, puis ça, c'est peut-être une surprise pour plusieurs. Donc, la semaine dernière, on a annoncé que la croissance au Canada, donc pour le deuxième trimestre, donc le deuxième trimestre, c'était avril, mai, juin, l'économie canadienne a cru à un rythme annualisé de 3,3%. C'est le rythme le plus rapide depuis 2023. Donc, l'économie ne semble pas ralentir. Malgré cette guerre en Iran, la guerre commerciale avec les États-Unis. Et puis, un facteur très positif là-dedans, c'est que les dépenses en immobilisation, donc les investissements des entreprises, ont augmenté de 2,3% au deuxième trimestre. Puis ça mettait fin à 5 trimestres consécutifs où les investissements des entreprises baissaient. Donc, est-ce qu'il y a une reprise de la confiance par nos entreprises qui décident de réinvestir? Est-ce que c'est le début de la diversification de l'économie canadienne? On sait que le premier ministre Carney essaie vraiment de signer des ententes avec l'Inde, avec des pays asiatiques, avec l'Europe, pour se diversifier, là, de se défaire un peu de notre dépendance à l'économie américaine. Est-ce que c'est un début? On va voir dans les prochains trimestres, mais c'était certainement une bonne nouvelle. Juste faire attention, cette croissance-là, c'était avant la dernière escalade de la guerre tarifaire. On se souvient que les États-Unis avaient décidé d'imposer au Canada 28 milliards de nouveaux, des tarifs sur 28 milliards d'importations vers les États-Unis. Le Canada, le 8 septembre, va riposter avec des tarifs sur 28 milliards de produits américains. Et là, les États-Unis ont dit, ah, mais c'est comme ça, nous, on augmente les tarifs à 50 % sur les autos et véhicules légers à partir du 1er janvier 27. Donc, toute cette croissance-là, c'est avant cette nouvelle salve de tarifs. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Bien, là, encore une fois, là, comme toujours, on a l'impression, depuis un an et demi, la Banque du Canada... pas navigue à l'aveugle, mais il y a beaucoup de forces contraires qui sont présentes. Donc, on s'attend à ce que les taux d'intérêt soient maintenus demain à 2,25 dans la prochaine décision demain.
Demain. Parlant de taux d'intérêt, Michel, vous vouliez aussi nous parler d'autres taux d'intérêt, là?
Oui, on en parle moins peut-être dans l'actualité locale. Mais il y a le marché obligataire mondial. Le marché obligataire mondial, ben c'est quoi? Il y a un marché pour des actifs à long terme, des actifs comme des obligations à long terme. Les gouvernements émettent des obligations. Donc, des obligations, c'est juste un prêt. Quand un gouvernement émet une obligation, ce qu'il fait, c'est qu'il emprunte. Une obligation, ben, c'est dire je prends, c'est comme un peu une hypothèque pour une maison. Donc, le gouvernement prend une obligation pour financer ses activités, son déficit. Et puis, ce qu'on remarque là, depuis quelques mois, puis ça s'est accéléré dans les derniers jours, il y a une hausse des taux long terme dans plusieurs pays à travers la planète, notamment le Japon, les États-Unis et l'Europe. Et puis, on évoque trois facteurs qui expliquent cette hausse des taux d'intérêt à long terme. Un, c'est l'anticipation d'inflation avec les tarifs et la guerre en Iran qui agit sur le prix de l'énergie. Certains pays, là, on commence à réaliser que leur dette est vraiment très élevée, puis je vais y revenir dans un instant. Puis quand la dette publique est très élevée, bien, il y a une demande accrue pour le financement, puis pour attirer des capitaux, bien, on est obligé d'offrir un taux d'intérêt plus élevé, donc les taux d'intérêt sont plus élevés à long terme. L'autre facteur qui est important là, depuis un an et demi, c'est l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'investissements à l'échelle mondiale en intelligence artificielle. Puis ça aussi, ça crée une pression à la hausse sur les taux long terme parce que l'intelligence artificielle, on veut attirer des capitaux. Il y a une concurrence pour les capitaux. Puis ce que ça fait, c'est que le prix de ces capitaux-là augmente, donc le taux d'intérêt augmente. Donc, si je revenais sur la dette de certains pays, on a mentionné le Japon. Le Japon a une dette qui est à 250% de son PIB, ce qui est énorme. Mm-hmm. Juste pour vous donner une idée, le Canada, la dette publique, donc incluant les provinces et les municipalités, on est autour de 110%. Donc, la dette japonaise est élevée. La croissance économique est relativement faible. parce que la population vieillit au Japon. Là, ils ont des taux depuis plusieurs années, des taux de natalité qui sont très faibles. Donc, on voit au Japon, cette dette-là est élevée. Puis là, les marchés disent, est-ce que le Japon a atteint sa limite? Donc, on charge plus cher. Donc, on exige un taux d'intérêt plus élevé pour la dette, les obligations japonaises. Un peu une situation parallèle, là, pas exactement semblable aux États-Unis. La dette est à 125 % du PIB. Puis on commence de plus en plus dans la presse financière à y faire référence, à cette dette très élevée aux États-Unis. Donc, ça s'est accéléré depuis que Trump est là. Il avait consenti des baisses d'impôts importantes là, à son début de mandat. Mais ça diminue les revenus de l'État. Puis en même temps, il a déclaré cette guerre en Iran là, qui a coûté jusqu'à présent 40 milliards de dollars. On a réduit l'immigration, on a mis des gens dehors, la population stagne, donc on se dit que la croissance va ralentir, puis probablement que la dette va peser de plus en plus. Donc, encore une fois, un peu pour les mêmes raisons qu'au Japon, là, on exige des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis. Puis finalement, je mentionnais la dernière cause, l'investissement en intelligence artificielle. Juste en 2026, à l'échelle mondiale, on s'attend à ce qu'il y ait 1 000 milliards de dollars investis dans ce secteur de l'économie qui est l'intelligence artificielle. C'est énorme. Donc, on voit que tout ça, il y a un paquet de facteurs qui font que les taux d'intérêt à long terme vont augmenter. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça augmente le coût d'emprunt des États. Puis beaucoup d'États, comme on l'a vu, sont fortement endettés. Puis c'est une des raisons pourquoi Trump voudrait que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis, mais il s'aide pas beaucoup en augmentant les tarifs puis déclarant la guerre en Iran. Ce sont tous des facteurs qui sont inflationnistes. Puis si l'inflation augmente, ben la Banque fédérale américaine va vouloir augmenter les taux d'intérêt pour mater cette inflation. Juste pour vous donner une idée, j'ai fait des petits calculs.
Oui, en terminant, Michel.
Oui, OK, bien rapidement. Donc, la dette pour le Québec, là, par exemple, bon, je vous épargne peut-être les calculs, là, mais arrivé à la conclusion, si les taux d'intérêt augmentaient d'à peu près un demi des taux à long terme, d'un demi de 1 % par exemple, passaient de 4 à 4,5 % ça représente environ, pour les Québécois, là, 2 milliards de dollars en dépenses d'intérêt supplémentaires pour le fédéral et le provincial. Donc, c'est énorme, 2 milliards, là, puis c'est juste une hausse de taux. Alors, ça va prendre la discipline. On parlait tout à l'heure de les plans économiques de nos partis politiques, mais ça va prendre la discipline. On se rend compte que le marché des obligations, c'est le vrai patron de l'économie mondiale. Quand les taux d'intérêt augmentent, il y a beaucoup de gens qui réagissent, là, puis ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour nos gouvernements.
Soyons disciplinés. Merci beaucoup, Michel.
Exact.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir. We'll be right back.
Le retour d'Hélène, je veux souvent dire le retour de Céline.
Oui, Céline Dion, dont on entend parler beaucoup, elle qui va commencer sa série de spectacles du côté de Paris. Je pense que c'est le 12 septembre, la première date. Et elle est arrivée, donc, en France. Il est en studio, je ne le connais pas, mais on a jasé un petit peu. Alan Quinn, directeur général par intérim chez Humanité et Inclusion Canada. Et je vous demandais si c'était la première fois que vous faisiez de la radio. Bonjour, Monsieur Quinn.
Bonjour, Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation.
Ça me fait plaisir. Et le micro, là, ça vous fait pas peur, vous?
Non, ça va. J'ai déjà fait de la radio un peu comme étudiant ici en communication, puis oui. Ensuite, travaillant en coopération internationale à travers le monde, j'ai fait de la radio dans différents pays aussi.
Ah oui, donc c'est un médium que vous aimez, avec lequel vous vous sentez à l'aise.
Tout à fait. La radio, c'est vraiment un outil d'éducation important qui rejoint plein de gens à travers le monde.
Oui. Alors, c'est pas la première fois là, qu'on invite quelqu'un d'Humanité et Inclusion. Vous aviez un autre nom auparavant.
Effectivement, l'organisation est née sous le nom de Handicap International en 1984. Alors, depuis ce temps-là, l'organisation s'est développée à travers le monde. Et aujourd'hui, on s'appelle Humanité et Inclusion, qui représente un peu l'esprit de l'organisation qu'on veut travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Alors, la mission, concrètement, de votre organisation, quelle est-elle?
La mission, c'est vraiment de travailler avec les personnes les plus vulnérables qui sont affectées par les crises humanitaires à travers le monde. Alors, on travaille vraiment en situation d'urgence, de post-urgence et de reconstruction dans les pays en voie de développement. On est présent dans près de 60 pays à travers le monde. Et la mission, c'est de travailler avec ces personnes vulnérables, en particulier les personnes en situation d'handicap, qui sont vraiment laissées pour compte, qui sont souvent exclues des processus de réconciliation ou de reconstruction dans ces pays. Alors, notre mission, c'est de travailler auprès de ces personnes-là, de les aider à récupérer une vie autonome, productive, travers leur inclusion sous tous les aspects qu'on peut décrire comme inclusion des personnes en situation de handicap.
Et vous travaillez comme à temps plein. Comment ça se passe là, quand vous venez en aide à une personne en situation de handicap ou qui devient handicapée à cause de la guerre, d'une catastrophe?
Oui, alors, si on peut donner un exemple, par exemple, on travaille actuellement en Haïti avec le projet qui s'appelle Santé et Protection, qui est financé par Affaires mondiales Canada. Alors, on a une équipe là-bas, Port-au-Prince, qui travaille à temps plein et qui offre différents services aux personnes en situation d'handicap. On travaille en particulier avec les personnes déplacées internes à cause du conflit en Haïti. Alors, on travaille dans des refuges, dans des centres d'hébergement, et on travaille à côté d'autres ONG qui offrent des services. Et nous, on travaille spécialement en santé et en réadaptation. Alors, on aide les gens à développer leurs habiletés physiques, de récupérer leur autonomie à travers des prothèses, des orthèses. Donc, il y a tout l'aspect réadaptation physique, kinestologie aussi, mais il y a aussi l'aspect santé mentale et appui psychosocial. Alors, tout l'aspect d'accompagnement des gens qui ont souffert aussi des traumatismes physiques, tout l'aspect psychologique aussi qui est pris en compte. Et une fois que ces personnes-là sont stabilisées, on offre une série de sessions aussi de réad ou de réadaptation. Et on inclut des dimensions parfois d'inclusion en éducation, inclusion économique aussi. Alors, on peut travailler avec ces personnes-là pour les aider à récupérer leur autonomie, non seulement physique, mais économique aussi, pour qu'elles soient productives au sein de leur famille et récupérer vraiment leur dignité humaine.
Donc, les personnes en situation de handicap sont, si je peux dire, votre première clientèle. Ce sont les personnes que vous aidez en premier lieu.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce ne sont pas que ces personnes-là qu'on appuie, mais on peut dire que Humanité Inclusion occupe vraiment cet espace, cette niche, qu'on pourrait dire, de travail avec les personnes en situation de handicap. Parce qu'on sait que...
De tous les âges.
Si on regarde la vulnérabilité des gens, effectivement, la situation d'handicap est importante. On va aussi prioriser les femmes qui sont victimes de violences au foyer, violences domestiques, la violence intrafamiliale. Mm-hmm. On va prioriser aussi les personnes âgées qui souffrent souvent de problèmes d'handicap. Et on travaille avec eux en offrant un package de services le plus intégral possible.
Et comment vous arrivez à les connaître, à les atteindre, ces personnes-là, parce qu'elles sont vulnérables, elles ne vont pas nécessairement savoir que vous existez, là, Humanité et Inclusion?
Bien, si on reprend le contexte un peu d'Haïti, donc les gens qui sont déplacés internes vont aller vers les centres d'hébergement, vers les centres de refuge. Alors, c'est là qu'on travaille à côté d'organisations comme Médecins sans frontières, par exemple. Alors, si MSF offre des services de santé primaire et secondaire, nous, on va rentrer en réadaptation et on travaille vraiment de façon collégiale, autant avec les ministères de la Santé des pays où l'on travaille, que les autres ONG qui travaillent dans des questions aussi humanitaires. Alors, on fait partie de ce qu'on appelle des fois les clusters des Nations unies. Mm-hmm. On travaille avec les acteurs et on est là pour aussi que les autres organisations prennent en compte aussi l'handicap. Parce que l'handicap, c'est un angle mort, non seulement pour les autorités, mais souvent pour les ONG elles-mêmes. Les gens en situation d'handicap sont souvent laissés pour compte et exclus. Et nous, on est toujours là pour remettre ça sur le tapis. Et je pense que la même chose se produit au Canada, au Québec. Et on le voit de façon encore plus criante à l'international, où les conditions sont encore beaucoup plus difficiles.
Et vous disiez qu'Humanité et Inclusion existaient depuis au moins 40 ans, depuis 1984?
Oui.
Et il y a encore là, de la sensibilisation, de l'éducation à faire. Pensez-vous qu'à un moment donné, les gens vont comprendre la réalité des personnes en situation de handicap?
Écoutez, je pense que vous en savez probablement beaucoup plus long que moi là-dessus. Votre radio se consacre à ça, mais est-ce que moi j'ai pu constater depuis mes années dans le domaine, c'est un combat constant. C'est une lutte à répéter. C'est un peu comme l'inclusion de la perspective de genre, l'inclusion de la dimension d'handicap. C'est une lutte constante qu'on doit constamment remettre sur le tapis. Alors nous, on travaille justement au plaidoyer et à la sensibilisation du gouvernement du Canada, entre autres, et des autres bailleurs de fonds à l'échelle internationale pour que l'handicap soit inclus aussi dans les politiques et les programmes de coopération. Alors, à l'échelle mondiale, selon l'OMS, on parle d'environ 16 % de la population globale qui est en situation d'handicap, mais il y a seulement 2 % des fonds de la coopération internationale qui vont vers les personnes en situation d'handicap. Alors, on a ce plaidoyer, cette lutte constante qu'on doit mener pour que l'handicap soit toujours remis sur la table et toujours considéré.
Oui. Alors, il faut y croire. Il faut pas lâcher.
Exactement.
Et derrière Humanité et Inclusion, il y a une équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui rendent la mission possible ici au Canada et partout dans le monde?
Oui, bien, on peut commencer en parlant de notre conseil d'administration. Donc, on a un CA qui est composé de personnes bénévoles qui sont des personnes qui travaillent soit dans des instituts d'éducation, de santé, qui viennent du milieu de la philanthropie. Alors, on a des gens de très haut calibre qui nous aident à ouvrir des portes et à pouvoir atteindre des grands bailleurs de fonds, des grands donateurs, par exemple, et qui nous conseillent aussi sur notre gestion. Mm-hmm. Donc, on a un CA qui est extraordinaire, qui travaille de très près avec notre équipe. Humanité Inclusion Canada, ou HIC Canada, comme on l'appelle. On est une petite équipe, on est une douzaine de personnes. Alors, on a des spécialistes en éducation inclusive. On a des spécialistes en inclusion des femmes dans le développement. On a spécialistes en inclusion économique aussi. On a aussi une équipe de gestionnaires, de personnes qui suivent les différents projets qu'on mène à l'échelle internationale. Alors, actuellement, on a une douzaine de pays qui sont touchés par nos programmes financés par le Canada. Et les gestionnaires qui travaillent dans mon équipe sont ceux qui travaillent au jour le jour avec les équipes de HI sur le terrain et qui assurent le respect des contrats avec le Canada, par exemple.
Alors, je vous rappelle que je suis en conversation avec Alan Quinn, directeur général par intérim chez Humanité Inclusion Canada. Vous parliez du soutien des bailleurs de fonds. Le soutien du public est essentiel aussi pour votre ONG.
Effectivement, on a une équipe qui travaille avec Humanité Inclusion, qui est notre équipe de collecte de fonds et de philanthropie. Alors, on a des contacts réguliers avec les grands donateurs. On a une série de fondations qui appuient notre organisation. On a aussi le grand public qui appuie. Alors, on est dans un contexte de philanthropie où il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de demandes sur la solidarité des personnes. Nous, on va toujours tenter de toucher l'aspect de l'inclusion, l'importance de focusser sur les personnes en situation d'handicap. Alors, on a des activités de levée de fonds, mm-hmm. on a des pétitions que les gens peuvent signer aussi.
Comment on peut faire? On va sur votre site?
Oui, ou... oui, tout à fait, tout à fait. On peut aller sur le site web de l'organisation qui est situé à hachi-canada.org. Et là, sur hachi-canada.org, on peut trouver des infolettres, on peut trouver des pétitions à signer aussi. Et lorsqu'il y a des crises majeures à travers le monde, dernièrement, on a les inondations au Népal, par exemple. On a aussi les tremblements de terre en Colombie et en Venezuela qui viennent d'arriver. Alors, on organise des campagnes de levée de fonds aussi pour venir en aide aux personnes qui sont touchées par ces désastres naturels-là. On travaille aussi des pays qui sont en conflit aussi armé. On est présent aussi au Moyen-Orient, en Afrique et même en Ukraine, en Europe. Alors, l'organisation travaille un peu à travers le monde et tous les dons, toute la solidarité des personnes peut vraiment faire une différence dans les pays des personnes, dans la vie des personnes qui vivent en handicap.
L'une des grandes causes que vous défendez, c'est la lutte contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. C'est toujours d'actualité, malheureusement, j'imagine?
Absolument, absolument. Donc, l'organisation a été fondée par deux médecins français qui aidaient les gens qui avaient été affectés par des mines antipersonnelles au Cambodge. Alors, les médecins travaillaient pour que les gens puissent récupérer leur autonomie. Alors, l'organisation a aussi reçu le prix Nobel de la paix pour le traité d'Ottawa. C'est un traité qui interdit les mines antipersonnelles à travers le monde, qui a été souscrit par plus de 150 pays. Alors, ce traité d'Ottawa, qui va avoir 30 ans l'année prochaine, on est associé à ce traité. Et malheureusement, aujourd'hui, les mines antipersonnelles et les armes continuent à affecter grandement les civils. Alors, les mines antipersonnelles, c'est prouvé, ça affecte beaucoup plus la population civile que les effectifs militaires. Alors, on a des bergers, on a des enfants qui jouent dans des cours d'école aujourd'hui qui sont affectés par les mines antipersonnelles qui ont été laissées depuis des décennies dans ces territoires-là. Alors, on travaille pour sensibiliser les populations et on est très préoccupé par le fait que des pays maintenant qui se retirent du traité d'Ottawa parce qu'ils se voient menacés par des pays voisins. Alors, il y a un recul sur le traité d'Ottawa qui nous préoccupe beaucoup. Alors, on fait beaucoup de plaidoyer aussi avec le Canada et les autres pays pour que les gens se maintiennent dans ce traité.
Humanité Inclusion Canada, merci d'exister. Merci Alan Quinn, directeur général par intérim chez Humanité Inclusion Canada. Ça a été vraiment enrichissant de vous recevoir ce matin, puis bonne chance pour la suite. On va vous réinviter.
Merci Hélène et merci aussi au Canal M pour l'espace. Merci. Plaisir.
On va entendre Patrice Michaud au retour et la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
T'es perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi. Ton mascara qui coule sur tes futurs pattes toi. Ta vie est un château, château de cartes de crédit. Au paradis fiasco, on ne prend que les raccourcis. De t'enfuir par la vitre.
jouer kamikaze. Plus de son, plus d'image. La météo dira que demain sera comme hier et qui fera tourner ton cœur au sens anti-horaire. Trouver l'auto-reverse, achever la fée Carabosse.
La chanson Kamikaze de Patrice Michaud.
Et on s'en va à Maria en Gaspésie où l'automne se pointe déjà un petit peu le bout de la feuille. C'est ce que me racontait Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
La luminosité change hein, chez vous, ben, comme partout ailleurs, mais peut-être que c'est plus remarquable en Gaspésie.
Oui, oui la lumière, c'est pas aux mêmes heures, là, le matin et le soir.
Ouais.
Quand je vais en Montérégie, je vois la différence. Et puis, ben, on n'a pas le choix, c'est ça. On tourne la page vers le mois de septembre.
Eh oui, tourne la page, comme dirait l'autre. Alors, Et le chant reste beau, c'est un livre qui nous invite peut-être à tourner la page jusqu'à un certain point.
Oui, tout à fait. C'est un petit livre, c'est pas très long, 152 pages, aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal, dans la collection Les Salicaires. C'est une première publication pour Sarah Garneau, qui est une femme qui, je crois, est native de Québec et puis qui a exercé comme métier, finalement, de s'occuper des êtres vulnérables. Puis son mari, son amoureux, tu vois, son conjoint, s'est enlevé la vie et à partir de là, elle s'est mise à écrire un journal de deuil. Et des années plus tard, avec ses études à l'université, elle a repris ce texte-là pour le retravailler et en faire un manuscrit qui vient de paraître il y a peut-être 2 semaines, là. C'est tout récent. Et le chant reste beau. Moi, quand j'en parlais, j'avais toujours tendance à le dire au futur. Et le chant restera beau.
Ouais.
Comme si je voyais l'après, mais en fait, c'est au présent et c'est une citation d'un texte de Rilke. Alors, on comprend à la toute fin pourquoi ce titre-là est là. C'est finalement l'espèce de résilience de toute cette démarche qu'elle va faire. Ce texte-là, c'est une autofiction sous forme de récit, donc dans lequel elle s'est permis, bien sûr, de jouer et d'ajouter des choses. Ça prend parfois l'allure d'un essai parce qu'il est question beaucoup de littérature, de philosophie, des lectures qu'elle a faites. Et puis parfois, ça prend la forme d'un dialogue parce que l'amoureux qui s'est enlevé la vie, bien, elle lui parle au-dessus, même s'il est absent. À travers les lectures, à travers les lettres, à travers les souvenirs, elle va chercher des réponses à la manière d'une enquête pour comprendre. Et c'est toujours ce qui se passe dans un décès par suicide, c'est pas comme quelqu'un qui fait une crise de cœur ou quelqu'un qui a un cancer, c'est quelque chose de soudain. Et puis souvent, il n'y a pas beaucoup d'indices, mais on cherche pourquoi la personne en est arrivée là. Alors, la narratrice ne nomme jamais cet homme-là, elle ne se nomme pas elle non plus. Et elle a un fils qu'elle a eu avec une autre personne. Il partage la garde, c'est un jeune enfant, il a peut-être 10 ans. Puis, bon, ben, face à cet amoureux qui vient de s'enlever la vie, elle va le laisser avec son père pour pouvoir se remettre de ce drame, de ce deuil qui est très long. Alors, on sent un malaise à la première page de ce livre où elle dit « Je te touche sans t'atteindre, comme si un voile nous séparait. » Plus loin, elle va dire « Mes tentatives de te comprendre et de te plaire m'exténuent. » Donc, son amoureux, on comprend qu'il est en dépression profonde et puis que elle essaie là-dedans de ramifier tout ça et c'est très lourd. Elle prend ça sur ses épaules et lui ne semble pas vouloir ou ne voit pas d'issue et va finalement organiser son suicide alors qu'elle s'en va visiter une amie. Elle a une amie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps aux États-Unis et puis elle lui dit « Une semaine chacun de notre côté nous fera du bien. Tu seras heureuse de revoir Rosemary. Ne m'écris pas, d'accord? Profite pleinement de ton voyage pour penser à toi. » Donc, afin de ne pas s'inquiéter puis envoyer des courriels, ben, il lui dit de ne pas s'écrire, de prendre cette semaine-là. Puis elle ne vit pas 24 heures sur 24 avec cet homme-là. Puis il y a toutes sortes de petits caprices auxquels elle se plie. Donc, elle se dit oui, pourquoi pas. Et lui, pendant ce temps-là, prépare la fin de ses jours, c'est-à-dire qu'il va y écrire une lettre. Il prépare un colis avec des œuvres littéraires et philosophiques qui va lui être livré plus tard. Et puis lui, dans sa poche de manteau, il va écrire un petit mot comme quoi il ne faut pas l'aviser, son amoureuse, avant qu'elle soit de retour. Donc, tout est planifié, tout est organisé depuis un bon moment. Puis ça, elle va s'en rendre compte quand elle va faire une recherche sur son ordinateur, qu'elle va voir l'historique sur les manières de suicider, ce qu'il faut faire avant de se suicider. Donc, ça faisait longtemps qu'il y pensait. Donc, elle s'en va chez son amie aux États-Unis, mais quand même un peu inquiète. Puis, elle reçoit un courriel d'un ami qui lui dit « As-tu eu de ces nouvelles? » Et là, ben, elle va apprendre qu'il s'est suicidé. Donc, elle va revenir. Elle reçoit la boîte de livres, la lettre. Elle essaie de comprendre. Dans toute cette peine, cette vulnérabilité, bon, ben, elle va se retirer dans un monastère puis elle va écrire pendant des semaines. Et là, elle lui écrit « Au-tu » à cet homme. Dans cette profonde quête, elle cherche des réponses et elle va en trouver finalement dans les livres qu'il lui fait lire de force, parce que c'est lui qui lui envoie ces livres-là. Mais elle a toute la culpabilité des survivants, des questions sans réponse, de toutes les choses qu'elle aurait voulu lui dire, qu'elle aurait peut-être dû lui dire, mais surtout de l'impuissance que l'on a devant la douleur des êtres qui nous entourent. Et je la cite, « Je n'ai rien pu faire contre ton départ, alors je t'écris. Je t'écris comme on court, comme on crie, comme on creuse des sillons sur son corps. J'écoute l'écho de ta voix me parler de choses invisibles. » Et plus loin, elle dit « J'écris pour nettoyer les taches de ton départ. » À plusieurs reprises, comme ça, elle justifie sa démarche. Elle explique ce qu'elle veut faire. Puis elle nous explique que finalement, elle doit tout défaire la relation, comme détricoter tout ça, pour comprendre la souffrance qui était trop lourde pour lui. Et quand la souffrance est trop lourde, on ne voit plus d'issue. Et c'est ce qui fait qu'il a choisi de s'enlever la vie. Ce texte, évidemment, est truffé de citations, de références à Hermann Hesse, Nietzsche, Antonin Artaud, Thoreau, Camus, etc., tous les livres qu'il lui a laissés. Et lui-même, le héros, le narrateur, mais son amoureux, avait publié un livre à compte d'auteur, en quelques exemplaires qu'il lui laisse. Et quand elle le lit, qu'elle cite des extraits, il est question de lui, de sa vie, de ses lectures, et tout nous apparaît prémonitoire. Il y avait un grand mal de vivre chez cet homme-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, qu'on soit vivant ou pas, on peut voir que nos bibliothèques parlent de nous. D'abord, le choix des livres qu'on garde et qu'on ne donne pas après la lecture, les passages qu'on souligne, les petits traits qu'on fait dans la marge, les petits signets qu'on met, les pages qu'on plie, c'est un témoin du lecteur. Ben oui, puis ça dit, regardons. Puis quand on lit les livres de quelqu'un qui est mort puis qui nous les a laissés, ben on les lit avec toutes sortes de questions puis on recherche, pourquoi il a souligné ça? Bon, voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que comment ils se sont connus, ces deux-là, c'est dans une librairie. Elle travaillait dans un café en face d'une librairie de livres usagés. Elle traversait pour aller chercher des livres, demander des suggestions, et c'est lui qui lui faisait des suggestions. Puis lui devait aller prendre un café aussi de l'autre côté. Et c'est comme ça, à travers les livres, qu'ils se sont connus et qu'ils ont vécu toute leur vie dans ce monde littéraire. Donc, ça nous permet de comprendre comment la fiction, la philosophie, la littérature, la poésie les habitent. Et puis, c'est aussi intéressant que cette femme qui est l'autrice, dans la vie, elle a choisi, après le suicide de son conjoint, d'aller étudier en littérature. Et puis là, elle prépare maintenant un doctorat. Et puis, il est question finalement de la représentation du fleuve Saint-Laurent dans les œuvres narratives féminines contemporaines du Québec. Et le fleuve est souvent, les rivières, les cours d'eau sont souvent dans le texte, partout, la poésie, la nature aussi. Alors, c'est sûrement le prochain livre qu'elle va faire. Ensuite, je vais vous donner un exemple du maritime, de l'image de l'eau. Elle a un fils qui s'appelle Samuel. Elle dit « Samuel est parti à l'école. Quand il est là, je rame à contre-courant pour rejoindre le rivage. Je me laisse guider par son visage. Dès qu'il referme la porte, une rafale de souvenirs m'entraîne au large. » Comme quoi elle perd le contrôle. C'est comme si l'enfant qui est là lui permet de rester dans le réel. C'est important parce que l'enfant, lui, il a des besoins immédiats, puis à un moment donné, il est capable de revenir dans le concret. Mais elle, pour l'enfant, elle va faire des gros sacrifices, mais dès qu'il part, là, ça y est, l'anxiété se met de la partie, puis elle a du mal à contrôler ses émotions. Alors, on comprend aussi au fil de ces lectures que le suicide, moi, j'ai toujours pensé que ça prenait bien du courage pour se suicider, mais non, c'est pas non plus de la lâcheté, mais c'est une grande souffrance qui fait qu'on ne voit pas de lumière au bout. Alors, on tombe dans le désespoir. Et puis, avec le temps, avec l'écriture, avec son fils, il va se former là une espèce de paix au fil de plusieurs années. Et on comprend que finalement, son livre est une réaction à tout ça, mais qui n'est pas sombre. C'est quelque chose de lumineux, qui fait place à la beauté de la nature, à la lumière, au vivant. Et c'est une forme de résilience, finalement, de faire de ce drame-là un texte positif qui s'adresse à l'absent, qui ne répondra jamais, mais qui peut, je pense, aider beaucoup de gens qui vivent des choses semblables. On connaît tous quelqu'un qui s'est enlevé la vie, puis on a malheureusement des statistiques très sombres au Québec là-dessus, surtout chez les hommes. Alors moi, j'ai trouvé là, pas une sympathie, mais une manière de comprendre qu'il n'y a pas à accuser personne là-dedans. C'est comme ça, puis il ne faut pas faire de la culpabilité, puis dire j'aurais donc dû, mais c'est comme ça, puis on n'y peut rien. C'est une maladie qui s'empare d'un être humain qui ne peut plus contrôler ses émotions et qui voit la seule solution, c'est de quitter. Mais comment vivent tous ceux qui survivent, c'est ça le drame qui est dans ce livre-là. Et c'est fort bien écrit, fort intéressant. Et puis même si c'est un sujet sombre, ça peut aider plein de gens qui sont dans un deuil, peu importe le type de deuil, c'est ça. Voilà.
Et Le chant reste beau, c'est un livre publié aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal dans la collection Les Salicaires, signé par Sarah Garneau. Et je vous donne un numéro très simple à retenir. C'est la ligne d'aide en cas de crise de suicide 988-988. Merci beaucoup, Anne-Marie.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Wow.
Earth, Wind and Fire, c'était la chanson September.
Et oui, en ce 1er septembre, on se gâte et on vous gâte, j'espère bien. Une clinique d'ophtalmologie qui accepte chaque enfant. Certains parents font la route depuis Trois-Rivières ou l'Estrie pour y obtenir une évaluation. C'est dans le Journal de Montréal, sous la plume de Louis-Philippe Messier, qui écrit que les listes d'attente en ophtalmologie pédiatrique sont si longues qu'une clinique montréalaise où les consultations sont couvertes par le régime public a décidé d'accueillir des jeunes patients depuis mars et son téléphone ne dérougit pas. De nombreux enfants attendent inutilement et engorgent les listes d'attente en ophtalmologie pendant des années, alors que leur cas pourrait être traité efficacement par des optométristes, constate la docteure Ala Mulad-Zanov. Sa clinique, qui s'intitule ou qui s'appelle Ophtalmo Décari, voisine de l'Orange Julep, s'est réorganisée au printemps dernier pour accueillir davantage de jeunes patients. Nous avons même commencé à recevoir des familles de Trois-Rivières et de l'Estrie, s'étonne son copropriétaire Oren Wiseman. Près de 400 enfants ont franchi les portes de cette clinique affiliée à la RAMQ depuis mars, principalement pour des problèmes comme le strabisme et d'autres troubles de la vision. Nous discutons avec des CI3S régionaux pour cibler leurs besoins et ils nous ont dit que nous leur rendrions service en nous concentrant sur les jeunes enfants, raconte M. Wiseman. Selon lui, plusieurs cliniques ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour examiner les petits. Ça coûte cher et ce n'est pas une clientèle payante, déplore-t-il. Santé Québec ne possède pas actuellement une base de données provinciale unique permettant de connaître les délais d'attente en ophtalmologie pédiatrique, mais plusieurs des jeunes patients référés à la clinique en août 2026 attendaient depuis 2023, même 2022. Parfois, le problème initialement mineur qu'un optométriste aurait pu corriger s'est aggravé pendant 3 ou 4 ans et la chirurgie est devenue nécessaire parce qu'on a trop attendu, se fâche M. Wiseman. Pour bâtir son équipe de première ligne, la clinique s'est tournée vers l'Université de Montréal. C'est ainsi que la clinique a recruté Jonathan Calva. Assise sur les genoux de sa mère, Charlotte, 3 ans, fixe un écran rempli d'images colorées pendant que l'optométriste examine ses yeux. « Regarde ici, Charlotte, c'est quoi ça? » Depuis plusieurs mois, sa mère Jessica Watts s'inquiète. Un de ses yeux semble dévié vers l'intérieur. Une intervention chirurgicale ne sera probablement pas nécessaire. En confiant aux optométristes les cas qui ne nécessitent pas son intervention spécialisée, la docteure Mulad-Zanov réduit l'attente tout en libérant du temps pour les dossiers plus complexes. Les optométristes devraient être considérés comme les médecins de famille des yeux, résume-t-elle. Chez Ophtalmo Décari, un optométriste peut consulter un ophtalmologue en quelques secondes puisque les deux cohabitent. Nos optométristes peuvent régler presque tous les cas et nos ophtalmologues interviennent aussitôt que c'est nécessaire. Cette co-gestion maximise le travail qu'on est capable de faire, affirme M. Wiseman. Avant d'obtenir un rendez-vous pour sa fille, Charlotte, Jessica Watts a cherché de l'aide ailleurs. « J'ai fait des appels, mais plusieurs optométristes ne voyaient pas les jeunes enfants », raconte cette résidente du plateau Mont-Royal. L'attente de quelques mois lui a semblé interminable. Quand on s'inquiète pour son enfant, chaque mois paraît long, soupire-t-elle. On écoute Bon Enfant dans la chanson Magie à Canalem.
Très bon choix, Hélène Denis. C'était la chanson Magie du groupe Bon Enfant.
Oui, quel bon groupe, hein, ah ouais. Mathieu. Vous les avez déjà vus en spectacle. Oui. Retraite de Lionel Messi, parlant de magie, un magicien. Je pars l'esprit tranquille et avec la fierté de vous avoir offert ainsi qu'à mes coéquipiers des moments dont nous ne faisions que rêver. Vivre ça avec vous a été incroyable, ce sont les mots de Lionel Messi, qui a mis un terme à sa carrière internationale à l'âge de 39 ans. Après près de 21 ans à défendre les couleurs de l'Argentine, Messi a effectué ses débuts en équipe nationale senior en 2005, mais son parcours a été semé d'embûches avant qu'il soulève finalement la Coupe du monde au Qatar en 2022. Mais Messi a surmonté l'idée qu'il ne pouvait pas remporter les grands rendez-vous. Il a su briller au FC Barcelone, puis avec le Paris Saint-Germain et enfin avec l'Inter Miami CF. Il a mené l'Argentine vers une défaite en finale contre l'Espagne en 2026. Alors, bonne retraite à Lionel Messi et merci, j'allais dire merci beaucoup. Non, c'est un jeu de mots facile. Je voulais même pas dire ça, c'est sorti tout seul. Merci beaucoup pour toutes ces sensations fortes. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ici Hélène Denis. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Merci Mathieu, à demain.